En 2022, c'était le dernier été qu'on a pu passer avec des dinosaures au cinéma, et cette année, c'est différent, on a un droit à un nouveau Jurassic World avec Jurassic World Renaissance, et on est vraiment super contents.
Tu aimes les films d'horreur?
Il est joli, ton bateau. Tu veux le récupérer?
Regarde ce que tu m'as fait.
Red Rum! Oh, Red Rum!
Attention, ils viennent te chercher par moi.
Déguster son foie avec des fèves au beurre.
Regardez-moi ça, ils ont jamais vu le sang, quoi. On dirait du ketchup, ça craint.
Salut les cinéphiles et bienvenue dans ce nouvel épisode de Souviens-toi du film dernier. En même temps, pas très compliqué là pour le coup de s'en souvenir puisqu'on l'a regardé il y a deux jours, Jurassic World Renaissance ou Jurassic World Rebirth en VO, puisque nous on l'a vu en anglais. Comme vous le savez, si vous suivez cette émission régulièrement, on habite à Prague. Eh bien, je m'attendais à pas grand-chose pour le coup. J'avais aucun préavis dessus. Et du coup, j'ai pas été trop déçu. Voilà, pour l'impression générale.
Oui, moi pareil. Pour l'impression générale, j'étais pas déçu. J'étais hyper contente de retrouver les dinosaures. Et puis, j'étais aussi super contente parce qu'ils ont tourné en Thaïlande. Et comme on a prévu d'aller en Thaïlande cette année... Du coup, j'étais super contente de voir déjà les décors et j'ai encore plus hâte d'aller en Thaïlande maintenant.
Mais oui, mais carrément, même si on sent que certains décors sont du pur CGI. Et malheureusement, j'ai trouvé ça un peu dégueulasse parfois, des mauvaises incrustations. Ah, j'ai envie de dire, c'est presque inévitable dans ce genre de film maintenant. On sent vraiment le côté décor naturel, on sent la jungle, les herbes hautes, tout ça, pour le coup, c'est vrai. On va un peu plus vous parler des lieux de tournage, d'ailleurs.
Oui, on a vraiment l'impression d'y être, en fait, d'être au cœur de la jungle, parce que les acteurs, ils sont vraiment dans la boue, dans la jungle. Mais à un moment, ils marchent, ils ont l'eau jusqu'à la taille. Ouais, donc, c'est pas du studio, ils sont vraiment... En extérieur. Et d'ailleurs, ce qui fait que c'est aussi réel, je crois que c'est ce qu'ils ont utilisé pour tourner le film, non ?
Tu parles au niveau de la caméra, oui. Le fait qu'il ait tourné en 35 mm pour rendre justement hommage un peu au Jurassic Park original, il y a un grain qui est particulier, effectivement, sur certains plans, en tout cas, on le remarque.
Il y a plein d'hommages, d'ailleurs, au premier Jurassic Park et à Jurassic Park de manière générale, même à Steven Spielberg.
Oui, et clairement, mais rien que l'apparition du T-Rex, comment ils l'ont mis en scène. Alors, dans le film, c'est pas une voiture, c'est différent, mais justement, et c'est là où tout est la surprise, je vais pas trop vous spoiler, le but de cette émission, c'est de parler d'un film sans spoiler, mais c'est très étonnant. Dites-vous, il y a un bateau gonflable et un T-Rex, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui peut se passer en fait ?
Et le fait qu'il y ait toutes ces références, je pense que c'est en partie dû au fait que le réalisateur, donc c'est Gareth Edwards,
yes,
qui est très fan de la saga, ils l'ont appelé, il a dit oui, il a couru direct, il a tout laissé tomber, il avait des projets en cours. Ouais. Et a tout laissé et il a foncé.
Je sais pas si vous regardez, en tout cas comme nous, le vidéoclub de Combini, sa dernière vidéo.
C'est super intéressant, on vous le conseille vraiment. Voilà. Si vous regardez que de temps en temps, celui-ci, il vaut vraiment, vraiment le détour.
Ouais, c'est le dernier épisode où justement ils ont
invité Gareth Edwards. Là, on a vraiment affaire à un énorme cinéphile, un fan du cinéma. Il a un amour pour le cinéma immense. Il a commencé à louer des films très tôt.
Ouais. Regardez cet épisode, franchement, voilà. Il est vraiment cool.
Mais c'est beau, très bel épisode.
Comme tu dis, c'est pas étonnant qu'on ait un peu de la référence à Jurassic Park, puisque c'est quand même le scénariste de Jurassic Park qui a repris la saga, quoi.
Tout à fait, David Cup, oui, qui avait adapté déjà le roman de Crichton.
Oui, Crichton, si vous ne le savez pas encore, eh bien, c'est l'homme derrière Jurassic Park, le vrai, quoi.
Michael Crichton, oui.
Voilà.
Qui est décédé il y a déjà un petit moment.
Ah oui, un petit
en
moment.
En 2008, j'avais vérifié, oui.
C'est
et
ça.
Et d'ailleurs, pour pas spoiler, tout au début du film, il y a un hommage à Michael Crichton avec un bus scolaire, la Crichton School.
Oui, c'est vrai, on le voit, c'est très rapide.
C'est très rapide, donc si vous l'avez pas encore vu, vous avez ce petit détail, vous pourrez faire attention.
C'est ça. Donc, on parlait d'un tournage en Thaïlande. Alors, plus précisément, ça a été fait au parc national de Khao Phanom Bensha, hein, c'est dans la province de Krabi. Un parc national, du coup, on peut le visiter, quoi. Oui. C'est ça, tout l'intérêt de la chose. Et il y a aussi une île, Krokradan, plutôt, dans le parc national de Hat Chau Mai, dans la province de Trang. Et dans le parc national Dao Phang Nga, dans la province de Phang Nga. Donc c'est
Phang Nga.
Mais c'est incroyable quand même qu'ils ont utilisé quand même trois parcs nationaux.
Mais la province de Phang Nga, elle est très connue parce que c'est là-bas qu'il y a eu le tsunami.
Ah oui,
au début des années 2000, et c'est là-bas qu'ils ont tourné The Impossible.
Oui, ils l'ont tourné sur le site, effectivement, du tsunami, ouais.
Oui. Bah, pas tout, hein, mais... ils ont tourné dans l'hôtel qui avait été reconstruit.
C'est vrai qu'au générique, j'avais été quand même assez étonné, parce que nous, on aime bien regarder le générique jusqu'au bout, parce qu'à la fin du générique, si vous faites attention, c'est là, à ce moment-là, que vous avez le droit à savoir où les films ont été tournés. Et j'étais étonné de retrouver Malte.
Mm.
Et c'est fou quand même. Oui,
c'est fou, je ne savais pas du tout qu'il y avait un studio à Malte. Et du coup, on a vérifié, et oui, il y a bien le Malta Film Studio de Kalkara. Et après, en recherchant un petit peu plus, en fait, toutes les scènes que vous allez voir dans le film en pleine mer, là, c'est aucun spoil, hein, vous le voyez dans la bande-annonce de toute façon, hein, qui sont en bateau pendant une grande première partie comme du film, au moins 20 minutes, hein, et au moins, il y a pas mal de séquences de mer au
début. C'est ça, ce qui fait...
Un quart du film, peut-être.
Ce qui nous donne le droit à une séquence d'apparition de dinosaures assez dantesque.
Oui, vraiment, vraiment intéressant, du coup, comment ça a été utilisé. Et du coup, ça a été tourné... aux abords de Malte, donc en mer Méditerranée.
Ouais, c'est
je pense qu'il y a une partie sur un plateau de tournage, tu sais, les gros, gros bassins, mais c'est aussi en mer aussi, parce que tu peux pas tout faire non plus en studio. Puis ça faisait très réaliste par moment. Et après, ils arrivent à Malte, hein, quand ils abordent, forcément, ils sont sur l'île des dinosaures. Et là, on reconnaît les gros rochers avec les plantes. On reconnaît la Thaïlande après. Hein.
C'est ça. Et il y a également un autre studio à Londres qu'ils ont utilisé, mais ça, c'est pour le fameux laboratoire qu'on voit au début du film. Il se passe quelque chose au début du film et on se doute bien que ça va revenir à la fin. Et on fait notamment la connaissance très rapide du nouveau mutant qui est.
Du nouveau gros mutant, parce qu'il y en a d'autres. Enfin, vous verrez. Ce film, il se base beaucoup sur les mutants. Il y a aussi des dinosaures, des vrais qui ont existé, parce qu'ils ont redemandé les conseils du paléontologue, je ne sais plus comment il s'appelle. Il a déjà travaillé sur les autres Jurassic World. C'est Steve Brusat. Voilà, c'est lui. C'est le consultant, en fait, pour être sûr de ne pas faire bêtises, quoi, que ce soit réaliste. Et moi j'ai trouvé ça intéressant. Peut-être qu'il y en a qui vont pas aimer, mais de mettre en avant les mutants, enfin, c'est vraiment, c'est quelque chose qui revient toujours, mais c'est quand même important de montrer que cette mauvaise utilisation est inutile et qui est inutile de la biologie, de faire des mutants, c'est dangereux et complètement inutile, quoi. On peut faire des... vaut mieux guérir les gens ou je sais rien. Il y a tellement de trucs plus importants à faire, en fait, avec les sciences et la biologie. Que de créer des monstres, quoi, en fait, finalement. Et
c'est là où justement la science se retourne contre l'humain. Donc on a ce mutant, c'est en fait un tyrannosaure à 6 membres, surnommé le Distortus Rex, le D-Rex, et qui fait, et ça pour le coup, Gareth s'en est pas caché, hein, on sent clairement la patte alien. Le crâne
de Giger, oui.
Ouais. Mais il avait dit, hein, j'ai vu Gareth, que c'est impossible, avec toutes les créatures qui ont déjà été faites au cinéma, c'est impossible d'en créer des nouveaux sans aller, même dans l'inconscient, vers des choses qui sont déjà faites. Et puis c'est vrai que la créature de Giger, elle est quasi tellement parfaite, en fait. Elle reste encore aujourd'hui impressionnante.
Et il le disait dans l'épisode de Combini, à quel point il était fan d'Alien. Il avait emprunté le film et pendant un mois, il le regardait en continu. Quoi. Il était fasciné par la création, quoi, la créature. Quelque chose qui n'existait pas, qui est vraiment du jamais vu pour l'époque. Du coup, là, c'est vraiment inspiré de rien, en fait.
Alors, pour ceux qui comptaient justement aller voir le film pour les dinosaures, eh bien, vous n'allez forcément pas être déçus, parce qu'on en voit quand même pas mal. Mais alors, si on va voir un film, c'est aussi un petit peu pour l'histoire. Donc si vous n'êtes pas vraiment intéressé encore au pitch, je vous le rappelle un petit peu. Donc ça se passe en 2010, c'est-à-dire 5 ans avant l'incident de Jurassic World. En tout cas, le début du film, hein, l'ouverture du film, parce qu'après, il y aura un bond dans le temps de 17 ans, il me semble. Oui, c'est ça. Donc on fait la connaissance de ce fameux laboratoire hein, qui crée des mutants qu'on va retrouver dans Jurassic World et dont l'un des mutants est le fameux D-Rex qui finit par s'échapper. Il y a ensuite un bond dans le temps, donc en 2027, où le climat terrestre est inhospitalier pour les dinosaures. Ils sont contraints de résider dans les zones proches de l'équateur, donc dont l'île Saint-Hubert en fait partie, puisque c'est censé être la Guyane française, en fait, dans le film. Et donc tous les dinosaures vont se retrouver là-bas, et alors... Qu'est-ce qui se passe dans le film? Pourquoi on se retrouve avec des humains sur cette île-là? Ben, c'est des scientifiques et dont forcément un capitaliste qui veut beaucoup d'argent, qui veut récupérer...
quelque chose.
Voilà.
C'est voilà, vrai. On le dit pas.
c'est vrai, quelque chose d'important, mais souvent assez important.
En fait, c'est un peu le pitch qu'il y a souvent dans Jurassic World. Si vous vous rappelez de la première trilogie aussi, ils vont sur l'île pour récupérer quelque chose. Sans rentrer dans les détails. Mmh. Dans le 2, ils vont chercher le T-Rex.
Oui.
Dans le 3 aussi, ils vont sur l'île parce qu'il y a des gens qui sont échoués, mais il y a aussi encore un autre truc. Enfin, il y a toujours une raison pour aller sur l'île. Ils vont pas comme ça aller sur l'île. Oh, bah tiens, si on allait voir des dinos. Alors que c'est pas un parc d'attractions protégé. Les seuls films où c'est des parcs d'attractions protégés, c'est Jurassic World, le premier du nom, de 93, et après le Jurassic World.
Jurassic Park.
Jurassic Park, mais je voulais dire, en plus, je pense, c'est ouais. Fou, ça m'énerve quand ça m'arrive. Jurassic Park de 93,
c'est ça,
où ouais. C'est un parc sécurisé, entre gros guillemets, voilà, au départ, c'est censé être voilà, fun, tu vas sur une île, il y a des dinos, et tout est bien géré. Et c'est pareil pour Jurassic World en 2015, où c'est un nouveau parc, ils ont recommencé, et. Tout est bien sécurisé, en plus c'est beaucoup plus moderne, ça a l'air encore plus sécurisé finalement, et ben finalement non. Voilà, là c'est les seules fois où les gens se rendent en mode touriste sur l'île, les autres fois c'est toujours, y a pas le choix en fait. Ou pour du fric.
Oui, et bien sûr on va retrouver le schéma classique des films de Hamblin, où il y aura forcément toujours une famille. Avec bah, des enfants, quoi. Dont cette fois-ci, c'est une gamine qui trouve un mignon. Comment s'appelle ce petit dinosaure là ? Bon, la nouvelle, vous allez voir débarquer la nouvelle peluche phare qui vont sortir.
Ah oui, là, ils ont mis le niveau très haut, je trouve, ouais. Hein, pour le niveau cute d'un dinosaure. Dolores, qu'on pourrait croire que c'est un petit dinosaure bébé, un petit bébé, pas du tout. En fait, c'est un petit dinosaure, c'est un aquilops. Et en fait, c'est un dinosaure qui mesure que 60 cm et qui pèse jusqu'à 1,5
kg. Maximum, quoi.
Maximum.
Genre l'équivalent d'un chien, d'un mini-chien chez nous.
Tout petit chien, ouais. Je sais pas, il doit y avoir des mini-chiens, oui, qui ouais. Pèsent.
Mais c'est vrai que, chinois. Du coup, moi, il me faisait penser son comportement un peu à celle d'un... Ou un lapin, ouais.
Ah, lapin,
aujourd'hui, ouais. Un petit chien, mais...
Un petit chien. Moi, ouais. Parce qu'elle se met debout sur les deux pattes, en
oui,
fait.
Pour réclamer sa petite friandise.
Mais ouais, elle est trop cute, on l'aurait aussi mis dans notre sac à dos, je pense.
C'est vrai. Et d'ailleurs, du coup, ils en ont fait un animatronics. Là, c'est l'animatronics, en fait, du film. Le reste c'est
ils en ont ils en ont fait trois en fait j'avais vu trois et ils ont dû le refaire plein de fois parce que c'est avec une imprimante 3D et fallait que les éléments soient extrêmement légers pour qu'elle puisse bouger de manière le plus naturelle possible et j'ai déjà vu c'est déjà sûr qu'elle sera dans les parcs Universal donc ceux qui vont prochainement aux Universal Studios donc que ce soit aux États-Unis ou en Asie. Eh bien, vous allez voir, il y aura des rencontres avec Dolores, comme il y en a déjà avec Blue, comme on a pu le voir
c'est vrai,
à Singapour. C'est vraiment trop, trop cool.
Cool.
Bah, vous kiffez des dinosaures, mais vous avez aux anges. Hein. C'est énorme. On y croit, mais vraiment, c'est
et
fou.
On va découvrir ça. On aura la chance de le découvrir, du coup, à Beijing.
À Beijing, en Chine, oui. Ouais. S'ils le font, normalement, oui,
je
pense.
Ouais, ça serait bien.
Je pense, oui.
Donc il y a ce petit dinosaure là et qui accompagne la petite fille quoi. Et donc il y a ce lien qui est créé, hein, qui est très famille, hein, très sympathique. Et du coup forcément avec des plus gros dinosaures et dont une scène, on vous en dit pas plus, mais là on sent vraiment l'hommage de Gareth Edwards pour Jurassic Park, avec même la reprise du thème de Jurassic Park. J'avoue ça m'a fait un petit quelque chose quand même. C'était C'est la meilleure scène du film, je pense, et tous les fans vont adorer voir cette scène.
Oui, c'est ça. Parce que le, bah, un des personnages principaux, il va faire quelque chose qu'on aimerait tous faire, en fait.
Ouais.
Voilà, on va dire ça comme ça.
C'est ça.
Pour pas spoiler. Et du ce coup, personnage est incarné par Jonathan Bailey, le professeur Loomis. Donc le professeur, bah, comme dans la saga, il y a toujours un professeur qui est amoureux, hein, des, qui adore hein, l'univers des dinosaures. Enfin, quoique, quand on pense au, à celui qui est interprété par...
Par l'autre là, celui du premier là, tu veux dire ? Oui, par. Je sais plus, j'ai plus son nom.
Oui.
Oh. J'ai plus son nom, c'est pas grave.
Oui, bah lui, bah, du coup, il est plutôt en mode. Il sait plein de choses, mais pas trop près les dinosaures. Il est un peu ému à un moment, mais voilà, il est plus en mode flip quand même. Hein. Il est pas du tout rassuré en fait.
Ouais, c'est vrai, ouais.
Par rapport à ça.
Sam Neill.
Non, ouais, Sam Neill, mais Jeff Goldblum aussi, c'est tous les deux.
Ah oui, Jeff Goldblum. Oui.
Jeff Goldblum encore plus. Ouais. Sam Neill, il est quand même touché hein, quand il les voit. Hein. Si. Mais il enlève, il enlève ses lunettes de soleil et tout. Enfin, tout le monde connaît
le
cette scène.
Plan,
donc là, on va revenir au Jurassic World Renaissance.
Donc là, tu parlais de Jonathan Bailey.
Oui. Voilà, pour ceux que le nom va peut-être rien dire comme ça, ceux qui sont pas fans de l'acteur, on va dire. Mais en fait, vous avez pu le voir, moi, le premier rôle que j'ai pensé, c'est les chroniques de Bridgerton, évidemment, puisqu'il incarne Anthony Bridgerton, donc le frère aîné de la fratrie. Et on a pu le voir récemment aussi dans Wicked, et on va le revoir bientôt de nouveau puisque la suite de Wicked
à Noël, non c'est fin d'année,
il me semble, en décembre. Oui, ça a déjà été tourné. Et
moi perso j'ai hâte.
Moi aussi. C'est Fiero, donc c'est le prince charismatique que vous pouvez voir. Pour ceux qui l'ont pas vu, il a un rôle quand même assez important. Enfin, dans le premier film, moi je crois que dans la suite, son rôle il va être plus important.
Ouais, bon, on verra tout ça. Moi, en tout cas, le seul acteur, du coup, enfin, plutôt actrice, bah, forcément, que je connais, c'est Black Widow, quoi.
C'est Scarlett Johansson.
Scarlett Johansson.
Bien sûr, oui.
C'est ça. Scarlett Johansson. Et après, le reste, c'est vrai que pour le coup, ils m'ont pas marqué. Et je vous avouerai que personnellement, je suis pas. À part Jonathan Bailey, juste pour la scène, la fameuse scène, hommage à Jurassic Park, c'était cool. Mais sinon, personnellement, hein, j'étais pas super emballé par les acteurs.
Moi, j'ai quand même bien aimé Mahershala Ali, qui a joué dans Moonlight et Green Book. On est deux là. Il y avait des scènes quand même... Bah, il est attaché à son équipage, qu'on voit rarement, je trouve, dans les Jurassic Park et Jurassic World, quand quelqu'un meurt. Il crie de tous ses poumons et ça paraît réaliste, tu vois, c'est pas... ça fait pas fake, il y avait quand même de l'émotion en fait.
Parce que il y a une histoire à derrière-plan avec le personnage, mais c'est induit, c'est pas super développé, c'est ça qui est peut-être dommage. Ça aurait mérité d'être plus développé, le background des personnages, voilà, c'est ça. Et je pense que 30 minutes de plus, c'était pas trop justement pour qu'on puisse émotionnellement un peu plus s'attacher au perso, et c'est ce qui manque, je trouve.
Bon, après, est-ce que tu t'es vraiment attaché à des personnages dans Jurassic Park ou Jurassic World ?
Bah, ouais, le...
Le premier.
Le premier.
Oui, mais c'est normal, on est attaché au film tout court, en fait.
Attends, Jeff Goldblum, et puis son torse nu, là, sur...
Mais je voulais quand même parler...
Laura Dern. Le personnage de Laura Dern, il est excellent.
Moi, je voulais quand même parler d'un autre acteur qui a un des rôles principaux dedans. C'est le méchant capitaliste, hein, parce que je n'ai pas retenu son nom. Et il est incarné par Rupert Friend. Moi, je me souviens de l'avoir vu dans Orgueil et Préjugés de 2005, parce que c'est un film que j'adore et que j'ai vu un nombre incalculable de fois. Et il y incarne Monsieur Wickham. Donc, pour ceux qui connaissent l'histoire, vous allez savoir hein, qui c'est. C'est un soldat, en gros, voilà. C'est un personnage quand même assez important dans l'histoire. Après, on a pu le voir, je me souviens l'avoir vu dans Le Garçon Pyjama Rayé, où il joue un soldat nazi. Et après, c'est surtout ces dernières années où il a fait plusieurs apparitions. Après, je ne sais pas si elles sont plus ou moins importantes, je ne m'en souviens pas. Dans les derniers films de Wes Anderson.
Mais on a juste vu French Dispatch.
On a juste vu The French Dispatch. Asteroid City, on l'avait commencé, on a arrêté. Je ne sais pas, soit c'était juste le film que j'aimais pas, soit c'était, je sais pas, peut-être que j'aime plus trop le style en fait de Wes Anderson que peut-être que je le trouve répétitif inconsciemment, je sais pas. Et après, la, le dernier qui est au cinéma actuellement, The Phoenician Chim, j'ai vu la bande-annonce, mais j'ai pas spécialement envie de le voir, en fait. Et ça m'attriste.
C'est pas grave.
Ouais, mais ça m'attriste parce que j'aime beaucoup le travail de ce réalisateur et je sais pas, j'ai l'impression que je m'en suis lassé, en fait. Je sais pas.
Il restera quand même...
Je suis peut-être pas la seule, dites-le nous dans les commentaires.
Ouais, c'est vrai.
Est-ce que vous, regardez, vous êtes allé voir les derniers films de Wes Anderson? Vous regardez encore? Ben, je sais, tous ceux qu'il a fait avant, donc jusqu'à avant, parce que French Dispatch, par exemple, je l'ai même pas revu, je l'ai vu qu'au cinéma, je l'ai même pas revu. Alors tous les autres, je les ai vus entre 2 et 4 ou 5 fois.
Pour moi, son meilleur, ça restera Moonrise Kingdom, hein. C'est mon préféré, personnellement.
Ah, moi, c'est La Famille Tannenbaum. Ouais.
Bah, alors plutôt à ses débuts, quoi, finalement.
Oui.
Quoique Mr. Fox, quoique Lilo au chien.
Oui,
faut pas oublier son travail Lilo sur l'animation.
Je l'avais adoré, oui. Mais et puis le ben aussi le Budapest Hotel.
Oui, Grand Budapest Hotel.
Grand Budapest Hotel, il était cool aussi.
C'est vrai. Bon, on va pas faire toute la carrière de Wes Anderson, mais, on n'est pas là pour ça. Mais je vois ce que tu veux dire. Par contre, les films de Gareth Edwards, je m'en lasserai jamais. Alors pour ceux qui ont jamais vu du Gareth Edwards ou qui ont sûrement vu ses films et qui savaient pas que c'était de lui, bah c'est quand même Monsters.
Son premier film
et premier chef-d'œuvre dans le genre évidemment des monstres. Et puis il a fait évidemment le meilleur Godzilla, je pense, en tout cas le meilleur reboot de la saga Godzilla, le premier du nom.
C'est celui de 2014 pour vous situer un peu.
C'est ça, elle y est déjà la 11 là-dedans, dans le premier, je sais plus.
Non, je crois qu'elle est à partir
dans du 2.
Dans le deuxième, oui.
Ouais. Bah bref, c'est lui aussi.
Et oui, parce qu'il a été tourné en 2013 et elle n'avait pas encore fait 11.
Mais Bobby Brown, tu veux
dire. Donc c'était après.
Et puis c'est surtout le meilleur volet de la saga Star Wars, je pense, le Rogue One, qui était intense, surtout la fin. Mais bon, c'est normal, c'est un gros fan en même temps. Donc
mais il faut qu'on regarde le film qui est sorti en 2023, The Creator, quand on est passé complètement à côté. J'en ai même pas entendu parler. J'ai juste vu en gros que c'est l'IA qui pète un câble, donc je sais pas s'il y a des robots sous intelligence artificielle, c'est quelque chose comme ça. Et...
ça me botte énormément, effectivement. Franchement, ouais, donc, je serais chaud. Mais donc finalement, petite carrière pour l'instant, 5 films. Et puis voilà, et je pense que ça va être un réalisateur qu'on va suivre tout court du coup, pour revenir un petit peu au film, la critique même du film, alors comme je le disais, bon, les personnages, j'ai un problème avec eux, mais après, dans un film d'aventure, voilà, c'est vrai que c'est pas non plus ce qui est le plus important, on va dire, même si le scénario, pareil, voilà. Bon, ils vont chercher un truc, ils ont besoin, mais finalement, on ne sait pas vraiment si cette quête pour laquelle ils sont partis est une vraie quête, ou alors c'était juste un truc fallacieux pour essayer de faire autre chose. Et c'est compliqué, en fait, de parler sans spoiler.
Oui, mais je pense que c'est fait exprès pour qu'il peut y avoir éventuellement une suite, parce que là, il n'y a rien d'annoncé pour le moment, ce sera en fonction du box-office. Parce que le film a coûté.
Allez voir ce film, sinon on l'aura pas. On n'aura pas de suite.
Je crois que il a coûté 180 millions de dollars et là il était à 120 millions.
Ouais, bah, il vient de sortir, donc c'est
oui,
bon.
Donc pour les États-Unis c'est déjà pas mal.
Ouais. Après pour la France, je sais pas, c'est toujours un petit peu.
Après ça regroupe l'Europe, tout. Faut voir.
Bah en tout cas, dans la salle on était. Bon, après, c'était un petit cinéma, hein, comme d'habitude. Il n'y a pas beaucoup de.
C'est un cinéma d'auteur, le Svetozor, pour ceux qui sont déjà allés à Prague.
Ouais.
Il y a un petit passage, en fait, et il y a un cinéma.
Donc,
à côté
ça, c'est
du passage Luterna.
Par contre, c'est vrai qu'il y a des scènes, notamment la fameuse scène du T-Rex, qui est impressionnante. Et c'est encore du jamais vu, en fait. Ils ont fait un truc qu'ils n'ont encore jamais fait. Après, je pense que ce n'est pas du spoil. Vous avez vu cette polémique qui a traîné sur les réseaux, comme quoi le T-Rex. Ils ont fait nager un T-Rex, ce qui apparemment est impossible, mais d'après un paléontologue, si, ça serait possible, mais pas de cette façon-là, effectivement.
Oui, en fait, les T-Rex, ils auraient pu nager, mais un peu comme les canards. En gros, ils flottent et ils battent avec leurs pattes arrière, en fait.
Ouais, c'est ça.
Un peu comme les canards.
Sauf que là, on le voit
un peu. Il a comparé ça à ça.
En mode crocodile.
Après, ce qui est possible, c'est que la rivière, un T-Rex est très grand, la rivière, elle ne fait pas 5 mètres de profondeur.
Oui, mais le truc, c'est qu'il était sous l'eau.
Mais il peut marcher.
Complètement sous l'eau, en fait. Pour après, créer cet effet de surprise.
Oui, mais après, comme un T-Rex, c'est... quand il est debout, il est penché, en fait. Donc, depuis le haut, ça peut avoir un effet crocodile.
On peut supposer. Enfin, et puis, est-ce que moi, vous étiez là il y a des millions d'années?
Moi, je l'imaginais marcher sous l'eau, en fait, tout simplement.
Ouais. Oui, c'est
parce qu'une rivière, déjà, elle devait être méga profonde pour qu'il puisse être sous l'eau.
Oui, bah, on le voit hein, d'ailleurs un petit peu. Hein,
ça fait combien de mètres de haut un T-Rex? On vérifie ça rapidement.
C'est grand.
Bah oui, c'est grand un T-Rex.
C'est grand.
c'est un des plus grands.
13 mètres de haut en fait.
Ouais, donc en gros, une rivière qui fait 13 mètres de 4 profondeur.
Mètres, 4 mètres de hauteur, pardon. 13 mètres de haut, c'est la longueur.
4 mètres de haut, une c'est rivière faisable. De 4 mètres, c'est faisable.
Mais surtout...
Mais pas partout, parce qu'il y a quand même plein de rochers, en fait, donc elle peut être pas tout le temps à...
Et c'est du cinéma, et la scène était vraiment cool, donc je vois pas pourquoi on devrait se poser des questions comme ça, et c'est comme la scène...
Bah moi, je l'ai trouvé juste cool, surtout quand la... il y avait... c'est pas vraiment un spoil, il y a un... Moi, non, je veux pas...
C'est pas... Mais oui, après...
Il y a un jeu de lumière et d'ombre à un moment avec le T-Rex, c'est tout ce que je dis, est vraiment, vraiment cool, je trouve... Qui fait penser à...
Au précédent.
Au tout premier. Au tout premier, c'est ça. Et c'était 4-4.
Souvent repris. Et par contre, ce qui est dommage, c'est que là, on n'a pas eu son fameux hurlement iconique à la fin. Il aurait pu avoir un plan final juste, histoire de genre, tu vois les personnages qui quittent l'île et puis t'as le T-Rex qui... C'est qui ouvre sa gueule, qui ouvre.
Bah là, t'as presque dit comment ça.
Bon, vous vous en doutez certainement, ils vont pas tous mourir, hein, évidemment.
Mais non, mais c'est pas pour dire qui ça spoile rien. Ouais. Mais ce que je trouvais intéressant, c'était aussi cette parallèle de fin, en fait. Souvenez-vous, à la fin de Jurassic Park, il y a cet envolé de pélicans.
Ouais.
Et là, bah, en fait, il y a un banc de dauphins.
Ouais,
je sais pas si on dit un banc de dauphins, une famille de dauphins, un groupe. Dauphins. C'est un groupe de dauphins, plutôt. Un banc de dauphins serait flippant, il y en aurait beaucoup. C'est un groupe de dauphins qui nagent à côté du bateau. Voilà.
Ouais.
C'est tout.
Ça fait une image sympathique avec un lever de soleil.
Avec des animaux de maintenant, quoi, pas préhistoriques. Il y a quelque chose de rassurant. Ils reviennent dans le monde.
Oui, ouais, voilà, c'est ça.
C'est des dinosaures, en fait.
Oui,
moi, je le vois comme ça.
Ouais, c'est, bah oui, complètement, en fait. Hein. Donc, il y a vraiment une barrière en fait, entre la région de l'équateur en fait,
Et d'ailleurs, il y avait un détail, mais vraiment un micro-détail. Dans la famille, il y a une fille ado et une petite fille.
Ouais.
Et la fille ado, elle a un t-shirt avec un énorme pélican. Est-ce que c'est une référence au pélican de la fin ou pas?
Ouais. Oui, c'est vrai qu'ils ont quand même rajouté des détails hommages un peu cachés dans ce genre-là. Et même des détails hommages qui n'ont absolument rien à faire.
Ah ben le Dr Loomis.
C'est ça, ce que j'allais dire, justement, voilà. Dr Loomis.
Puisque c'est quand même un podcast d'horreur à la base. Là, c'est vrai que Jurassic World, c'est pas le film horrifique.
Si, moi, je le justifie. Oui. Et justement, on en avait parlé, pourquoi on enregistrait cet épisode. Et c'est pas que parce qu'il vient de sortir et qu'on a besoin d'abonnés. Hein, abonnez-vous. Et notez ce podcast, s'il vous plaît. C'est juste parce qu'il y a quand même quelques scènes de terreur. Ah, moi, j'ai été terrifié, je suis désolé, mais il y a vraiment des scènes d'action. Non, mais vraiment,
vrai.
On sent la tension. Hein.
C'est vrai, j'avoue.
Des personnages qui sont dans l'eau avec des dinosaures. Franchement, les noms, je ne m'en souviens plus. Hein,
franchement, tu n'as pas envie d'aller sur un bateau juste après le film.
nouvelles peurs débloquées. Tu n'as pas envie d'aller en Thaïlande. Tu n'as plus envie d'aller sur une île, en fait.
Tu ne restes pas à la plage, ni dans la jungle. Mais on va où?
C'est ça. Mais oui, donc effectivement, l'hommage... Henry Loomis, c'est un hommage à Samuel Loomis. Voilà. Il a vraiment choisi ça pour le fun.
Le docteur Loomis, donc, incarné par Donald Pleasance dans Halloween.
Faudrait qu'on refasse un podcast Halloween sous prétexte qu'on va mater le film bientôt. Pour Halloween prochain, peut-être. Et d'ailleurs, détail assez amusant, si on reste un peu sur l'acteur qui incarne le docteur Loomis, il fait de la musique.
Oui, il joue de la clarinette. Mmh. Et du coup, c'est lui-même qui a interprété quelques morceaux d'orchestre en solo. Enfin, il y a eu un passage solo et c'est lui qui l'a interprété. Et c'est cette fameuse scène méga touchante qu'on vous a dit avec le thème de Jurassic Park. C'est lui qui fait quelque chose de méga touchant qu'on aimerait tous faire. Et la musique qu'on entend, c'est lui qui la joue. Ouais. Ça, c'était cool comme anecdote.
Oui, c'est vrai.
C'est une belle anecdote, ouais.
C'est vrai. Et donc,
Le mec, il était touché par sa propre musique et la situation.
C'est ça.
Parce que forcément, ils mettent quand même une petite musique d'ambiance, quoi, pour aider les acteurs, j'imagine. Il n'y a pas un gros blanc. T'sais. Bon, maintenant, tu fais comme si t'es ému.
Ouais, bah voilà, rien. C'est ça. Exact, ouais. Et du coup, j'ai trouvé qu'il y avait des scènes assez frissonnantes, on va dire, du bon suspense. Et puis surtout, des décors de jungle, on l'avait déjà dit au début, hein, qui sont assez magnifiques, une lumière maîtrisée. Et c'est vrai que bon, la CGI vient parfois gâcher, hein, on se souvient de cette fameuse falaise.
Pas tout le temps. Après, c'est pas la pire CGI qu'on a vue. Il y a eu pire. Bah, pas, si vous voulez pire, il y a le dernier Ant-Man, par exemple, où c'est les fameux écrans et c'est encore pire. Parce que la zone, si on y prête vraiment attention, on voit que la zone des acteurs est ultra restreinte.
Ouais.
Et là, il n'y a pas cet effet-là.
Mais maintenant, je me
préfère voir quelques défauts de CGI de temps en temps que d'avoir. De voir des acteurs sur un plateau avec un espace restreint parce qu'ils sont devant un écran LED.
Ouais, c'est vrai qu'on le sentait pas trop pour le coup. Ça va.
Oui, parce que là, ils ont pas utilisé ça en fait. Ils sont vraiment dehors. Et ça, c'est un gros point fort du film, je trouve.
Oui, et mais c'est devenu rare avec une nouvelle franchise.
Bah, les Jurassic Park, ils étaient toujours. Oui, Jurassic World sont toujours allés. Bah, au moins pour tout ce qui est île, ils étaient dehors.
Et, tu vois, et j'ai envie de dire, tant mieux, hein, parce qu'on va, grâce à ça, avoir le droit à sûrement des visites touristiques sur les lieux de tournage. Et j'ai envie d'y être. Et il y a une expérience de fou. C'est un truc un peu de luxe hein, qu'on vivra jamais je pense parce que ça coûte $500 par personne je crois
oui c'est un hôtel qui est en fait il y a deux hôtels, il y a un dîner thématisé sur l'ère jurassique, vous allez sur l'île Avani Aonang et sur Koh Lanta aussi.
Ouais.
Et tu fais du kayak, plein de trucs, des randonnées, tout est vraiment de A à Z encadré. Enfin, c'est même génial pour les familles en fait, parce qu'ils disent que c'est pour les enfants aussi. Ouais. Donc c'est vraiment un truc ultra friendly, parce qu'ils ont pensé à faire des cocktails spécialisés et des mocktails, donc ouais. Sans alcool aussi, c'est pour ça, les enfants, thématisés sur les dinosaures, quoi, sur le film.
Ça a l'air tellement cool.
Ça a l'air vraiment cool, ouais.
Si selon le podcast pouvait nous rapporter $1,000.
Après, c'est moins cher que d'aller à Hawaï, le rêve d'aller sur les traces de Jurassic Park. Alors là, c'est encore un autre niveau.
Ça, c'est notre goal.
Voilà. Là, au moins, on pourra déjà aller à Krabi, c'est bon, ça, on peut se payer. Mais Hawaï, pour le moment, c'est pas possible.
D'ailleurs, on va forcément, du coup, quand on sera en Thaïlande, on va forcément vous faire une vidéo lieu de tournage de Jurassic World. Oui. Et si vous voulez pas rater ça, vous pouvez d'ores et déjà
vous rendre sur notre chaîne YouTube, Les Voyageurs Cinéphiles, et vous abonner. Parce qu'on fera aussi d'autres lieux de tournage, parce qu'il y a d'autres films qui ont été tournés en Thaïlande.
Ouais.
Et on projette d'aller dans d'autres pays en Asie du Sud-Est. Et à chaque fois qu'il y a un tournage, machin, quelque chose.
On le fait. Et en plus, il y a des films à James Bond qui étaient tournés là-bas. Bon, on va revenir à Jurassic World. Et ce que je voulais en venir, c'est cette fameuse expérience immersive.
Qui est actuellement à Singapour. Et qui va déménager à Bangkok. Et donc, on pourra y aller parce qu'elle y sera à la fin de l'année, en fait. Elle va arriver peut-être vers l'automne, après l'été.
Ouais.
Et
on ça vous filmera être... ça effectivement.
Mais j'ai déjà vu des vidéos pour celle de Singapour, ouais. Ça a l'air vraiment vraiment cool quoi.
Ouais, j'ai hâte.
Moi à Singapour c'est $26 singapourien l'entrée, j'ai vu.
Donc c'est moins de 26 euros parce que c'est en dessous. Franchement ça a l'air cool. Et franchement c'est aussi cool aussi quand on y pense hein, pour le pays, l'économie locale hein, parce que.
Il y a même de la VR. Hein.
Ok, ben super.
Donc, en gros, tu peux manger, il y a des dinos, de la VR, il y a des activités. Je suis pour. C'est vraiment pour. Ils appellent ça exhibition.
Ouais.
C'est une exposition, mais ultra immersive.
Un peu comme Stranger Things.
C'est un peu comme dans un parc d'attractions, ouais. Sauf que tu vas pas avoir un roller coaster. Mmh. Voilà, on va dire ça. Il n'y a pas une attraction sur rail ou sur eau, des trucs comme ça. Mais t'as tout le reste, tu l'as en fait.
Et ce que je voulais dire aussi, c'est que ce film, faut pas oublier, il est quand même très important pour justement l'économie locale. À chaque fois qu'un tournage se déroule dans un pays en voie de développement, comme on dit, Ça a quand même de l'importance, ça a quand même créé plus de 2000 emplois hein, quand même en Thaïlande. Et il y a eu plus de 10 millions d'euros,
en
dollars
euros,
hein, pour le coup.
400
hein,
millions
de bahts, voilà, qui ont été injectés dans l'économie locale. Donc, est-ce qu'ils vont faire des trucs de fou avec? Qu'est-ce qu'ils
c'est
vont
ça,
faire
vont...
On va pas pouvoir le maîtriser, effectivement, mais en tout cas,
et
nous
oui,
proposer.
Réaménager peut-être des routes, je sais pas, des choses qu'ils ont besoin en fait.
Nettoyer, c'est... effectivement,
oui,
plusieurs. Entretenir les parcs nationaux.
Entretenir les parcs nationaux, ouais, oui, bah oui, les parcs nationaux, oui, évidemment, oui.
C'est ça. Mais en tout cas, pour voilà, faire...
Et ce que j'avais vu aussi, pourquoi ils sont allés en Thaïlande, une des raisons, ça peut être qu'il y a une remise en espèces de 20% pour les productions étrangères.
Ouais.
Comme il y a en Tchéquie, en fait. C'est pour ça que les films américains vont en Tchéquie. Budapest, c'est encore plus. C'est 30%, je crois. La Tchéquie, c'est 25 ou 20. C'est un peu plus.
Non, alors, la Tchéquie, c'est 22.
Ah, c'est 22.
Et Budapest, c'est 25.
Ah, voilà, ah. C'était ça, voilà. Oui.
Mais oui, c'est pour ça qu'ils ont... Et puis, tant mieux, les Américains, venez en Europe, venez ailleurs.
C'est
parce
ça.
Que ça coûte cher visiter des lieux de tournage aux États-Unis. Mine de rien.
Oui, et puis ça aide les locaux, ça permet de réaménager des lieux, ça permet de restaurer des lieux aussi. Quand ils utilisent en Tchéquie des châteaux, par exemple, ça leur permet... de réparer des choses. Et on vous en parle d'ailleurs dans notre vidéo Nosferatu, parce qu'on a visité un des châteaux qui a servi pour la demeure du comte Orlok. Et on a parlé avec les locaux hein, qui travaillent, qui sont bénévoles
oui.
au château. Et voilà, je vous en dis pas plus. Pareil.
La vidéo n'est pas encore sortie,
oui,
parce qu'on a encore...
On doit encore
tourner des séquences.
Oui, il y a encore des séquences à tourner, mais elle va sortir encore cet été. Donc, n'hésitez pas à nouveau voilà, vous abonner.
Sur la chaîne Les Voyageurs Cinéphiles. Eh bien.
Oui, on est passionnés, on a vraiment envie de partager un max. Donc,
ouais.
Et aussi, vous pouvez partager un maximum
oui,
notre travail.
Oui, c'est ça. Et
ça nous ferait énormément plaisir, hein, vraiment.
Et faites-nous vos retours dans les commentaires. Moi, je pense qu'en tout cas, personnellement, j'ai tout dit. Est-ce que tu as des choses à rajouter ?
Non, pour ma part, je n'ai rien d'autre à ajouter non plus. J'espère que ce nouvel épisode de podcast vous aura plu. Hein. Dites-le nous dans les commentaires ou via notre site internet, via YouTube. Il y a plein de façons de nous contacter, donc n'hésitez vraiment pas. Ça nous fait toujours plaisir de parler cinéma
ouais.
et voyage aussi, hein, parce qu'on adore aussi voyager et vous donner des conseils sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet lesvoyageurscinéphiles.com. Et on vous invite à aller voir le film hein, au cinéma si vous le pouvez. Et sinon, en profiter quand il sortira sur les plateformes.
Exactement. Et merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et puis on vous dit à bientôt
pour de nouveaux films d'horreur.
Ouais, films d'horreur.